Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Lorsqu'une balade porte nos pas jusqu'au bord du littoral, les sons que lancent ces oiseaux marins sont ceux qui accompagnent nos oreilles. Bien sûr, goélands et mouettes apparaissent d'abord comme des râleurs et leur activité semble bien frénétique. Il en va tout autrement des phoques. Se prélassant sur le sable et presque affalés les uns sur les autres, leurs masses de graisse s'étalent au soleil brûlant dans une mouvante immobilité flasque. Les phoques sont gras et gauches. Dès qu'ils s'essayent à parcourir la plage ou la roche, leur déambulation maladroite s'associe à la molle lourdeur de leur flaccidité. Car leurs membres trop courts leur donnent cette lourde démarche quasi rampante. Pourtant, quand les phoques entrent dans l'océan, toute leur mollesse disparaît. À contempler leur jeu dans le creux des vagues, le délié de leur trajectoire raconte leur habileté dans la mer, et encore bien davantage dès qu'ils plongent, se glissant à la poursuite de poissons qu'ils chassent d'une manière si adroite. Nul doute, la mer est leur domaine. Si chaque observateur distingue leur parenté avec les loutres, chacun peut pourtant constater que leurs pattes atrophiées rendent difficile leur locomotion terrestre, un peu comme si dans leur histoire évolutive, il avait fallu faire ce choix drastique entre pattes et nageoires. Mais le dilemme des phoques et otaries ne s'arrête pas là, car ces animaux marins cachent un autre secret. Les pinnipèdes regroupent 33 espèces différentes quand leur écologie reste encore assez semblable. 32 phoques et otaries et une espèce de morse se partagent l'océan. Au demeurant, et rien n'étonne si les phoques diffèrent d'un endroit à l'autre, depuis les Caraïbes aux côtes normandes, fréquentant les glaces arctiques ou traînant sur les rivages de Patagonie. Mais consommant poissons et en cornets, chacun vit-il vraiment dans un habitat assez particulier pour pouvoir présenter cette physionomie dissimilaire? Alors, la question n'est pas si incongrue. Pourquoi y a-t-il tant d'espèces de pinnipèdes, littéralement de ces animaux à pattes aplaties? Pourquoi ont-ils eux aussi divergé encore davantage pour déployer leur biodiversité dans la nature? Cela paraît raisonnable de penser que, comme toutes les espèces, les phoques se sont multipliés, d'ailleurs d'une façon assez prudente, en ne développant qu'une trentaine d'espèces. Et cependant, cette diversité des otaries et des phoques dissimule une grande leçon de biologie. Il est probable qu'échoué sur sa terre, Robinson Crusoe n'en a jamais discuté avec les phoques. Cependant, l'otarie à fourrure de l'archipel Fernandez s'accroche obstinément sur son île déserte, en plein cœur du Pacifique. Pourquoi faire, me direz-vous? Endémique de l'archipel, au large des côtes du Chili, l'otarie partage l'île où naquit l'histoire de Robinson Crusoe. À guetter la mine un peu avenante d'un grand mâle, on peut concevoir que le naufragé prudent en ait un peu différé l'observation, car, comme bien d'autres phoques et otaries à fourrure, le mâle étale sur le sable trois fois la masse d'une belle femelle, près de 160 kilos. Et cependant, c'est la plus petite des otaries. En outre, comme toutes les otaries, ce pacha atrabilaire, règne en maître tyrannique sur son harem, sans relâcher sa dictature sexuelle. L'océan lui offre ici à foison les encornets et les sèches dont il se nourrit. C'est que les phoques et les otaries ne connaissent pas les frontières, et que les océans les dispersent sans barrière. Ou bien sûr, certains, comme le petit phoque du lac Baïkal, ne peut guère espérer maintenant parcourir à pied sec toute la steppe sibérienne qui la sépare de l'océan. Mais les autres otaries et phoques savent nager dans le grand large. Alors pourquoi s'attarder sur ces îlots? Quant aux poissons volants, ils ajoutent à leurs 67 espèces des ailes saugrenues qui les sortent temporairement de l'océan, où ils retombent toujours. Dérisoire tentative de quitter la mer. Nous voilà donc à cogiter sur la vie océane des phoques et des poissons volants. Mais comme nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, nous allons plonger nos neurones en plein milieu des mers australes et glaciales pour y déceler comment l'histoire des phoques se raconte, très loin de ceux des hypocrites qui leur mettent des ballons sur le nez.
Nous écoutions une mélodie de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Minor Swing. Bonjour à toutes et tous sur 89.4 et sur Internet, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Donc, aujourd'hui, avec Thierry, nous allons fouiller les frontières de la mer et sonder les océans. À la recherche de quelques lumières sur cette biodiversité incroyable, en jetant d'abord notre dévolu sur les phoques. Dans cette première partie, les phoques sont donc dans le viseur. Il faut déjà dire que Otari et Phoque ont connu une bien triste histoire dans leur relation avec les humains.
En effet, Siona, pas besoin d'avoir un gros cortex pour imaginer que, comme la plupart des animaux sauvages, les pinnipèdes ont d'abord été chassés. La chasse aux phoques est ancienne, pour la viande, pour la fourrure, la graisse ou l'huile, qui servait aussi aux lampes d'éclairage. La chasse pour la fourrure et pour l'huile a été même historiquement aussi développée que l'industrie baleinière. En fait, on chassait déjà les phoques veaux marins et les phoques moines sur nos côtes. Puis, plus tard, on a commencé à chasser le phoque du Groenland, le phoque à capuchon, le phoque de la Caspienne, et même les éléphants de mer et les morses lorsqu'on a commencé à envahir l'Atlantique Sud. Historiquement, ce sont les Vikings qui ont fait disparaître le morse de l'Islande vers 700 avant Jésus-Christ. Toutes les espèces ont rapidement décliné, et encore aujourd'hui connaissent des fortunes diverses. On considère aujourd'hui que plus de 90% de certaines espèces ont été exterminées.
Eh bien, cela fait beaucoup. Enfin, après leur découverte au XVIIIe siècle, après avoir exploité les phoques et les morses, il semble qu'on ait aussi chassé et tué toutes les espèces d'otaries à fourrure.
Oh oui, sans aucun doute. Avec la découverte de l'Amérique, la chasse a sans doute été le premier rapport que les otaries ont eu avec les occidentaux. Cette viande a été très intéressante à cause de son caractère très gras et de la facilité à s'en procurer pour ravitailler les bateaux. Aussi, le massacre des otaries a pris une place démesurée tout au long du XIXe siècle. Devant le carnage répété, on a commencé à limiter le nombre de captures dès 1911. Aujourd'hui, toutes les otaries ne sont toujours pas protégées et les lions de mer sont même complètement menacés.
Mais aujourd'hui, Thierry, la chasse reste quand même plus modérée.
Oui, s'il y en a un peu. Enfin, on tue encore, en 2020, plus de 100 000 phoques et otaries par an. Et plus particulièrement les phoques marbrés, les phoques barbus, les phoques du Groenland, les otaries à fourrure, et parfois même, à peu près tous les ans, presque 10 000 morses. Et ça, c'est juste pour leur ivoire. Mais il ne s'agit que de chiffres qui sont donnés dans le cadre de la chasse traditionnelle indigène, celle qui est exercée par les Inuits et quelques autres chasseurs autorisés dans les régions arctiques. Mais déjà au XIXe et XXe siècle, le morse a fait l'objet d'une intense exploitation commerciale pour sa graisse, mais surtout pour l'ivoire de ses défenses, faisant diminuer d'une manière extraordinairement rapide ses effectifs. L'abattage a même été si important que les populations naturelles de morse sont désormais complètement fragmentées.
Est-ce que cette chasse est contrôlée ou continue-t-elle de réduire les espèces ?
Alors, certes, la chasse commerciale est maintenant mieux contrôlée, mais l'intérêt pour les peaux de phoque se prolonge encore et les populations de phoques et de morses se sont drastiquement réduites. Ce massacre pour la fourrure et la graisse a tout de même été fortement critiqué par les opposants à la chasse. Après des mois de campagne de presse, il y a eu un embargo sur la chasse commerciale en 1995. Mais il a fallu attendre 2009 pour voir interdire le commerce de certains phoques en Europe. Il faut reconnaître que les méthodes de chasse s'apparentent souvent à des tueries sanglantes.
On se souvient des campagnes de Greenpeace contre la chasse commerciale, qui d'ailleurs intéressait la France au premier chef.
Et oui, s'il y en a, tout ça à cause de l'industrie de la mode en France. La commercialisation des fourrures d'animaux sauvages concerne le plus souvent l'industrie de la mode, et même si le piégeage et la chasse peuvent être modérés, parfois même interdits dans certains cas, le commerce en France est encore autorisé, surtout pour les animaux terrestres. La martre, par exemple, est souvent piégée et sa peau est revendue. Les fourrures sont avant tout travaillées en France pour confectionner des vêtements de luxe. Par exemple, si l'hermine et le vison ne peuvent pas être piégés en France, la grande majorité des peaux proviennent des pays de l'Est et de la Russie. D'ailleurs, pour répondre à cette demande de la mode, de nombreux élevages d'animaux sauvages, renards, visons, ont même été introduits un peu partout dans le monde. On parle d'ailleurs de les fermer prochainement. Mais les éleveurs croulent souvent sous les frais engendrés, car les peaux brutes ne valent pas grand-chose par rapport au prix d'un col de vison sur un manteau. Aussi, des dizaines d'élevages ont déjà fait faillite et renvoient les animaux dans la nature, occasionnant d'autres problèmes écologiques, notamment à cause des espèces invasives. Ainsi, il existait des ragondins, il existe des visons d'Amérique en France, des rats musqués et même des chiens vivérins, autant d'espèces qui se sont installées à partir des évasions de ces élevages mercantiles.
Pour en revenir aux phoques, l'industrie de la fourrure a beaucoup misé sur les bébés phoques, mais pourquoi tuer des bébés animaux et pas des adultes ?
Alors oui, on se souvient très bien de l'émoi provoqué par la chasse aux bébés phoques. Ils étaient massacrés d'un coup de pieu sur la tête. La fourrure des adultes est luisante, imperméable et présente des qualités importantes. Mais les bébés phoques possèdent un pelage non imperméable, certes, mais immaculé, tout blanc. Les nouveau-nés de phoques exhibent cette fourrure très blanche qui les dissimule sur la banquise et leur permet d'éviter d'être détectés, notamment par les ours polaires. En effet, ils ne savent pas nager. Et donc, comme ils ne savent pas nager tout de suite, ils sont encore allaités par leur mère pendant quelques semaines. Ils attendent donc le retour de leur mère, blottie tout près du trou de plongée. Et ces animaux, qu'on appelle des blanchons, on les trouve comme ça à cause de leur fourrure cryptique blanche, ils restent immobiles et donc très très vulnérables. Or, l'industrie de la mode européenne a été très demandeuse de cette fourrure blanche, surtout à cause de la raréfaction des hermines. La plupart des phoques sont chassés depuis le XVIe siècle, et probablement même avant encore. Mais la chasse aux blanchons a surtout été importante dans les années 1950 et jusqu'en l'an 1990-2000, en faisant diminuer rapidement les effectifs parce qu'on tuait tout ce qu'on voyait. Alors, en 1982, il y a eu une interruption provisoire sous l'effet de grandes campagnes d'opinion. En 1995, il y a un embargo qui a été décidé, mais aujourd'hui, les phoques nouveau-nés sont encore chassés sous la seule contrainte d'un quota annuel pour l'exportation. 75% de ces fourrures vont à la mode, les autres, moins de 25%, concernent la viande de phoque.
Tu disais que leur chasse s'apparentait à une sorte de massacre sanglant.
Oui, parce qu'en fait, la principale méthode pour tuer les bébés phoques, les blanchons, sans abîmer leur fourrure, consiste à leur asséner un fort coup sur la partie inférieure du cerveau du phoque. On les chasse en leur martelant des coups de massue sur la tête.
Bah oui, c'est plutôt terrible. On les approche sur la glace en véhicule mécanique, puis on massacre les jeunes blanchons à coups de gourdin.
C'est ça. Les chasseurs de phoques, les phoquiers, utilisent cependant un gourdin spécial, qu'on appelle le hakapik. Il frappe la tête du bébé quand il est immobile, puisque la seule chose qu'il sait faire, sa seule défense, c'est de s'aplatir sur le sol pour tenter de se dissimuler. Alors il y a un coup de hakapik qui détruit la partie arrière du cerveau quasiment instantanément, mais la tête éclate, c'est donc très sanglant. L'hakapik est un instrument qui est très régulièrement utilisé pour tuer les phoques. Il a la forme d'un long marteau et se compose de deux parties. À son extrémité, il y a le percuteur et de l'autre côté, il y a le crochet. Lors du coup qui est donné sur la tête du phoque pour le tuer, c'est en général avec le percuteur qu'on fait ça. C'est une technique rapide et un seul coup peut suffire pour tuer l'animal. De toute manière, les parents et le bébé phoque sont totalement démunis face à cette agression terrestre. Mais même chez les grandes espèces aussi placides que le morse, et qui lui est dépourvu de fourrure à valeur marchande, les adultes subissent une telle exploitation pour l'ivoire que les populations se morcellent et se réduisent drastiquement. Les animaux vivent de plus en plus au nord. En 7 ans, on a tué 175 000 morses, entre 1925 et 1931. La chasse commerciale des morses est maintenant plus ou moins réglementée, mais l'espèce a été conduite au bord du déclin définitif.
Heureusement, les jeunes phoques grandissent vite, et au bout d'un moment, savent nager et échapper aux chasseurs. Les phoques ont des prédateurs aussi.
Alors le prédateur principal, ça reste évidemment l'homme, mais l'écologie des phoques et des otaries les place assez haut dans les réseaux trophiques. Eux-mêmes sont des prédateurs de poissons. Mais outre la chasse commerciale, ils ont quand même des ennemis naturels, notamment l'ours blanc, qui peut même tuer un morse. Et en mer, ils sont aussi victimes des grands requins, des orques qui les chassent. Ils constituent souvent l'apport alimentaire principal des orques et des ours polaires, parfois des requins. Mais les grands phoques adultes savent aussi échapper à ces prédateurs, pourtant beaucoup plus redoutables comme les orques.
Cependant, les phoques et otaries sont des prédateurs. Ils mangent des poissons sauvages dans la mer.
Oui, chaque espèce de phoque trouve une ressource particulière. Et phoques et otaries se partagent les poissons selon leur aptitude à les capturer ou selon leur milieu de vie. Alors, ce sont tous des espèces clés de l'écosystème marin. Les pinnipèdes sont devenus des mammifères remarquablement adaptés à la vie aquatique. Par exemple, le grand morse qui peut atteindre plus d'une tonne 500. C'est principalement un mangeur de coquillages. Il mange des moules de fond ou même des vers marins qu'il débusque à 80 mètres de profondeur. Il utilise pour cela son museau qui creuse le substrat boueux. Il découvre ses proies, principalement ce sont donc des bivalves, enfouies dans le fond marin à l'aide de ses vibrisses mystaciales, sur les petites vibrisses qu'ils ont pour tactile. Et il chasse le sable et la boue en soufflant pour déloger le coquillage. Il peut aussi s'appuyer sur ses longues canines, mais ses défenses, qui sont décidément très prisées, constituent d'abord un organe de séduction sexuelle.
Est-ce que, comme les loups pour l'élevage ovin, ils sont aussi surveillés ou tués par l'industrie de la pêche?
Oh là là, oui. Les pêcheurs accusent les phoques et les otaries de diminuer la ressource halieutique. Et ils n'hésitent pas à les tirer ou à les chasser. Parce que les populations piscicoles s'effondrent partout. Évidemment, le rôle des phoques dans la réduction drastique des poissons n'est pas du tout scientifiquement fondé. Au contraire même, puisque les phoques jouent un rôle sanitaire en consommant d'abord les poissons les plus faibles. De plus, ils mangent aussi des poissons prédateurs, c'est-à-dire des poissons qui vont attraper d'autres poissons, contribuant ainsi à équilibrer le monde marin. Non. c'est bien plutôt l'usage par les pêcheurs de filets dérivants, et des chaluts notamment, qui détruisent la faune marine. En fait, un grand nombre de phoques meurent asphyxiés, après avoir été piégés dans des filets de pêche, même des filets de pêche abandonnés au demeurant.
Eh bien.
Les phoques subissent bien davantage des massacres inutiles avec tous ces filets, mais les humains ne perçoivent pas toujours le risque de ramasser du poisson, comme dans le cas des loups ou des lynx, d'envoyer moins de moutons à l'abattoir. Donc ça, ce serait à cause de ces quelques prélèvements que feraient les phoques. Ici, la cupidité marchande remplace évidemment la réflexion critique.
D'autant que la pêche au chalut est totalement destructrice. Nous en reparlerons. Mais on chasse aussi les phoques avec des élevages de saumon en mer.
Oui, autour des élevages de saumon, les phoques sont massacrés, autour de toutes les fermes d'élevage de poissons au demeurant. Ces élevages constituent bien sûr des sources de nourriture qui attirent les phoques qui vont s'en approcher. Alors on accuse les phoques d'attraper le poisson par le bas ou même de percer les filets de protection qui sont déployés en mer autour des parcs avec des très très fortes densités de poissons et notamment des saumons. Mais surtout, on les détruit préventivement. Dès qu'un phoque approche, il est massacré par des éleveurs qui emploient pour cela des chasseurs professionnels pour pouvoir les tirer à distance et avec un fusil à lunettes. Rien qu'en Écosse, en 4 ans, entre 2011 et 2015, ce serait près de 1600 phoques qui auraient été abattus par ces mercenaires de l'industrie du saumon, et ce, quelle que soit l'espèce, qu'elle soit menacée ou pas. On tue au moins 600 phoques par an en Norvège pour la seule protection des parcs à saumon. Et l'État donne en plus d'autres autorisations spéciales, parfois subventionnées même. Il faut imaginer ce que représente le nombre de ces tueries quand une espèce sauvage ne totalise que quelques milliers d'individus reproducteurs dans le monde, dans un monde où il y a déjà plus de 7 milliards d'humains. Mais tout est bon pour défendre l'industrie du saumon d'élevage qui génère évidemment beaucoup de profits.
Et oui, le capitalisme reste non seulement un système d'exploitation des humains, mais il fait aussi le vide en s'appropriant la propriété des espèces et des espaces sauvages. Mais ces phoques, qui sont-ils ?
Otaries, phoques et morses, ce sont donc des pinnipèdes, un groupe zoologique de 33 espèces de mammifères marins, et on a vu que leurs pattes se transformaient en nageoires. En fait, les os de leurs membres se sont allongés, et les phalanges forment ce qu'on appelle une hyperphalangie, ce qui va faciliter la natation. Dès l'Éocène, il y a 50 millions d'années, donc à peu près, ces mammifères qui étaient à la base terrestres sont retournés dans le milieu marin. Les membres osseux ont ainsi évolué en petites palettes natatoires, moins spécialisées que chez les dauphins. Alors les dauphins, eux, ont multiplié leurs phalanges, on appelle ça une polydactylie. Mais l'hyperphalangie des phoques reste très efficace tout de même, parce que ça confère une souplesse importante aux articulations, et notamment aux poignets. Ils sont donc très très performants pour la nage et pour la plongée marine.
Alors qu'à terre, ce sont de bien gros lourdeaux.
Oui, à terre, les phoques rampent sur toute leur face ventrale, alors sur la glace ou sur le sol. Ils progressent par une sorte de reptation, puis aussi par petits bonds, en s'appuyant sur leurs deux membres antérieurs. Alors les otaries et les morses utilisent leurs quatre membres pour déambuler sur le sol, car leurs pattes postérieures sont alignées, comme chez les autres mammifères. Alors que chez les phoques, il n'y a pas cette articulation des pattes postérieures. Si les phoques et les éléphants de mer sont complètement dépourvus de pavillons d'oreilles apparentes, les otaries, eux, ils exposent des petites oreilles bien visibles. Les morses forment un groupe à part, dont il ne reste d'ailleurs qu'une seule espèce vivante, et ils sont aussi dépourvus de pavillons d'oreilles. Enfin, ce sont tous des nageurs exceptionnels, capables de plonger en apnée sur plus de 80 mètres de profondeur, et cela pendant près de 30 minutes.
Ils fréquentent surtout l'océan glacial.
Alors certes, tous les phoques et tous les otaries possèdent une couche épaisse de graisse sous-cutanée, qui peut même atteindre un tiers de leur poids, quasiment 500 grammes par exemple chez les morses ou chez les éléphants de mer. Ce gras mesure jusqu'à 15 cm d'épaisseur, alors que des animaux comme le morse vont évidemment beaucoup moins appréhender le froid que les grosses chaleurs de l'été. La plupart des espèces préfèrent les eaux froides. La graisse favorise beaucoup les espèces qui sont devenues donc capables de survivre en Antarctique, en Arctique, comme par exemple le léopard de mer en Antarctique, lui c'est un prédateur de manchots. Mais d'autres espèces résident à des latitudes beaucoup moins extrêmes, les otaries du Pacifique notamment, ou encore le phoque moine en Méditerranée. Nous avons en France le phoque gris qui vit sur les côtes rocheuses de Bretagne, le phoque vaumarin sur les plages du nord de la France, mais le phoque moine de Méditerranée, lui, a complètement disparu de France et d'une grande partie des côtes du sud.
À l'origine, les phoques sont des mammifères terrestres, plutôt proches des ours ou quelque chose comme ça ?
Alors pas tout à fait. En fait, il y a eu beaucoup de polémiques pour assurer si les pinnipèdes sont étroitement liés aux ursidés, donc tu as un peu raison, ou encore aux mustélidés, comme les belettes. On considère aujourd'hui que le groupe des pinnipèdes s'est séparé des autres caniformes au cours de l'Éocène, car on a découvert qu'ils dérivaient tous d'un seul ancêtre. Au Miocène, il ressemblait à une sorte de loutre qui était nommée Pudgila darwini. C'est un petit prédateur terrestre de l'Arctique, qui savait nager, mais qui ne disposait pas encore de ces fameuses nageoires typiques des pinnipèdes. Il était proche de Potamotherium, c'est un ancêtre qui aurait donc été parent avec les Mustélidés, et il aurait fait ses premières armes dans les écosystèmes d'eau douce. Il y a 30 millions d'années, ces espèces étaient déjà adaptées à la vie aquatique en mer avec une colonne vertébrale flexible, et peu à peu, ils se sont pourvus de membres qui commençaient à se modifier en nageoires. Les otaries se sont séparés ensuite des phoques, il y a à peu près entre 30 et 18 millions d'années. Et chaque groupe suit sa propre histoire évolutive. On est donc passé d'une hypothèse polyphylétique, les pinnipèdes auraient eu plusieurs ancêtres à partir des ours, à une nouvelle espèce monophylétique, une seule espèce à partir des belettes en quelque sorte. Il existe aujourd'hui 18 espèces de phoques, 14 espèces d'otaries, mais une seule espèce de morse.
Crémoué, crémoudro, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il voudrait voir sa blonde faire un show. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
La musique qui accompagnait nos pensées était la complainte du phoque en Alaska de Beau Dommage. Nous voilà revenus sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous traquons aujourd'hui la socio-écologie des phoques et autres otaries dans Science en Liberté, une émission qui rajeunit et explose tous nos petits neurones. Alors Thierry, nous allons voir que le dilemme de Marius poursuit nos phoques. Nous venons de voir que les phoques et otaries sont nombreux. Il existait donc 33 espèces de pinnipèdes qui se sont diversifiées depuis une cinquantaine de millions d'années. Pourtant, tous vivent en mer et sont issus d'un petit mammifère qui se prit un jour l'envie d'essayer l'océan. Pourquoi y a-t-il tant d'espèces ?
Eh bien, s'il y en a un premier groupe, les phoques moines ou monachinés, occupent les mers tropicales. Il existe le phoque de Hawaï ou phoque moine de Méditerranée. Un second groupe, des lobodontidés, sont répartis dans les mers australes. Ce sont les phoques de Ross, les phoques de Weddell, le phoque crabier et le fameux léopard de mer. Le troisième groupe est composé des phoques à crête, qui sont les estophorinés, éléphants de mer, austral, boréal ou encore le phoque à capuchon. Enfin, les phocinés rassemblent le phoque marbré, le phoque barbu, le phoque gris, le phoque vaumarin, le phoque du Groenland. Le phoque de Sibérie a migré vers le lac Baïkal en provenance de l'Arctique. Via, à l'époque, il y avait une couche de glace en Sibérie et il s'est donc cantonné autour de ce lac Baïkal. Et puis autour de la mer Caspienne, on a également le phoque de la Caspienne qui s'est retrouvé isolé avec la baisse des eaux de la mer. À l'époque, c'était Paratétis. Laissant derrière elle donc une toute petite mer résiduelle, la mer de Caspienne. Ce à quoi il faut ajouter le morse et 14 autres espèces d'otaries.
À part le morse, ce sont plutôt des espèces du Pacifique, mais certaines occupent l'océan Indien.
Les otaries à fourrure se sont réparties en lions de mer d'Australie, lions de mer de Nouvelle-Zélande, lions de mer de Californie ou encore de Californie mexicaine. L'entreprise de diversification des otaries à fourrure n'est d'ailleurs pas encore totalement pleinement retracée, car en plus de ces espèces qui se ressemblent, il faut aussi distinguer l'otarie à crinière du Chili, qui va d'ailleurs du Chili jusqu'en Argentine, et cette autre otarie à fourrure sub-antarctique, qu'on appelle l'Arctocephalus tropicalis, ou encore celle-ci qui se veut australe, Arctocephalus pusillanus. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il faut savoir que des espèces se différencient encore en otaries à fourrure des Kerguelen, en otaries à fourrure du Nord ou en otaries de Steller, ce qui est le plus grand de tous ces grands pachas, et tout ça pour ne citer que quelques-unes. On peut donc déceler que la différenciation spécifique des otaries doit sans doute être attribuée à leur répartition géographique.
On peut se dire que les espèces des mers chaudes sont différentes. Mais les autres, pourquoi y a-t-il tant d'espèces différentes, hein, puisque phoques et otaries vivent dans l'océan et présentent une écologie marine? Ils mangent plutôt tous les poissons.
Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur écologie est apparemment assez semblable. Mais la distance peut dégager des propriétés singulières. En effet, les différences se corrèlent avec un isolement par la distance. Ça veut dire qu'en se dispersant, nos otaries à fourrure ont progressivement changé d'espèce. C'est ça qu'on appelle le dilemme de Marius. Partir au loin et abandonner donc sa fiancée sur place, ou bien rester dans le lieu de naissance pour repérer sa première petite amie. En se dispersant, les phoques et les otaries vont donc progressivement changer d'espèce. De la sorte, si nos otaries se révèlent monophylétiques, c'est-à-dire provenant toutes d'une espèce ancestrale commune, elles se sont réparties sur les quelques terres qui étaient immergées entre elles et le Pacifique.
Du coup, ces tyranniques roitelets, même quand ils vivent sur des îles minuscules ou des étroites côtes rocheuses, peuvent s'en déclarer les dictateurs jaloux.
Alors, il est vrai que nombre d'espèces paraissent vraiment, vraiment irascibles avec les autres. La distance ouverte par les différents groupes a progressivement amené à leur différenciation spécifique, leur spéciation. C'est donc bien cet isolement par la distance, cet éloignement par la distance, ce fameux dilemme de Marius, qui a limité leur rendez-vous galant. Alors, la diversification des diverses espèces d'otaries à fourrure provient finalement de leur mauvaise façon, et plus particulièrement de leur violente irritation amoureuse.
Donc, le nombre d'espèces de phoques dépend d'abord de leur promenade en mer et de leur éloignement les uns des autres.
Tout à fait, Siona. L'espace ouvert entre eux a été un point très important. Alors, Lamarck lui parlait du temps. Non qu'il ait eu quelques soucis météorologiques, mais selon sa théorie originale, les défendants divergeaient de leurs ancêtres, la formation des espèces se déroulait donc dans le temps. Darwin, il a bien reconnu l'influence géographique en reconnaissant la possible contribution de l'isolement, mais il accordait toute son importance à la concurrence, à la compétition. C'est donc à Ernst Mayr qu'on doit l'idée du rôle fondamental de l'espace en lui-même, ce que les scientifiques ont nommé la spéciation allopatrique. Ça veut dire que les espèces se sont formées, se sont différenciées, par une séparation géographique, l'allopatrie. La théorie de la spéciation allopatrique constitue même l'un des fondements de ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire le néo-darwinisme. À ce point qu'on ne saurait plus la remettre en cause, affirme même le chercheur américain Coyne, et nous allons pourtant découvrir qu'il y a bien lieu d'en douter cependant.
La géographie des espèces les conduit à ne plus se voir, mais comment cette séparation par l'espace, cette allopatrie, peut-elle amener une divergence entre les espèces ?
Eh bien, quoi qu'en pensent les otaries, la généralisation de la spéciation allopatrique, la formation géographique des espèces, se partage déjà en deux paradigmes, le paradigme de vicariance et l'effet fondateur. La diversification des espèces par la géographie, la fameuse spéciation allopatrique, a donc deux événements majeurs. Le premier événement, la vicariance, consiste en une simple cassure en deux d'une population. La théorie de la vicariance affirme qu'un groupe primitif peut se diviser en deux populations qui graduellement, c'est pas trop comment, deviennent deux espèces distinctes. Bien que remettant la géographie au premier plan, le paradigme de vicariance reste donc assez proche des tout premiers énoncés de Darwin, une sorte de concurrence. L'effet fondateur innove en argumentant qu'une petite partie d'une espèce peut se déplacer dans un autre habitat et fonder donc une nouvelle espèce. Ici, l'isolement géographique pourra donc être complété par la dérive génétique. L'effet fondateur se présente donc en deux temps. D'une part, il y a la dispersion d'un petit groupe à partir d'un groupe autonome, puis sa reproduction interne qui va engendrer une dérive de ses composants génétiques. Ici, le petit nombre d'individus à l'initiative de l'installation va accroître la dérive du bagage génétique de la population. C'était tout, puisqu'il n'y pouvait y avoir d'autres cas selon le néo-darwinisme.
Mais Thierry, le problème reste que ces individus éloignés sont toujours de la même espèce. Comment une espèce pourrait-elle naître de cette distance ?
Eh bien voilà le problème, car si la spéciation des phoques a discrédité le dogme indiscutable de l'allopatrie, c'est que justement la géographie n'y figurait pas du tout comme quelque chose d'essentiel. La divergence s'avère ici beaucoup plus écologique. Voilà que le milieu et les ressources interviennent bien davantage que la géographie dans la diversification des espèces.
Et l'écologie sépare, d'autant plus que les espèces usent de leurs coutumes dissemblables pour se reproduire.
Tout à fait, Siona, car l'évolution dépend d'écologie, mais une rature ne devient nécessaire sur la prétendue spéciation allopatrique. Mais en fait, n'y a-t-il finalement pas de vraie spéciation géographique du tout ? Mais seulement une sorte de gradient d'isolement par la distance et d'isolement par l'amour, par la reconnaissance sentimentale. Car c'est lorsqu'on ne reconnaît plus l'autre comme un partenaire sexuel possible que les différences peuvent alors se fixer. Ce qui fonde les espèces tient donc d'abord dans leurs relations amoureuses.
Les phoques et les otaries, en s'éloignant les uns des autres, ont donc en quelque sorte été empêchés par la distance de rester une seule et même espèce, et cela sans vraie barrière géographique ni concurrence.
En effet, la divergence des espèces peut s'introduire sans aucune séparation géographique, dans le même habitat, dans le même milieu, tout simplement à cause de la rareté de leurs amours. Il existe des obstacles à la formation d'une espèce nouvelle quand il n'y a pas de barrière géographique, évidemment. Mais le premier problème vient du fait que la sélection de caractères différents chez l'espèce nouvelle devrait être empêchée uniquement parce qu'il y a encore des liaisons amoureuses. La recombinaison génétique de la sexualité fait que tout le génome se trouve en quelque sorte remélangé, un peu comme on rebat les cartes à chaque fois qu'on joue la descendance. Alors comment présenter une différence qui se maintienne assez pour faire émerger deux espèces distinctes ?
Mais finalement, il faut d'abord que la divergence se fixe par la sexualité, alors ?
Tout à fait, c'est par la sexualité. Il suffit que les choix amoureux du nouveau groupe d'individus éloignés des autres se répètent inlassablement pour les mêmes caractères nouveaux, et la divergence peut alors intervenir. Mais il reste quand même une seconde difficulté. Le problème réside dans la cohabitation à proximité de la première espèce et de la nouvelle espèce, pendant et après leur divergence. L'une d'entre elles seulement possède des caractères adaptés à la nouvelle niche qu'elles occupent, sinon il n'y aurait pas eu de diversification. Et la concurrence devrait, d'après le néo-darwinisme, forcément entraîner l'autre à l'extinction. Puisqu'elles se distinguent par des caractères propres, la compétition entre elles devrait inéluctablement condamner leur divergence. Mais justement, cela ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, les poissons volants vont introduire une nouvelle expérience qui va compléter celle que nous avons des phoques.
Comment cela ? Les poissons volants sont des espèces qui se sont éloignées par la distance, elles aussi ?
Oui, alors voyons d'un peu plus près cette petite digression. Le nom des poissons volants, c'est aussi les exocètes. À remarquer que notre poisson volant partage avec les phoques, d'une part, une diversification indiscutable de ses variétés, mais aussi une improvisation majeure d'une adaptation parfaitement originale, puisque cette locomotion est inattendue. Mais quand le phoque nage, l'exocète, lui, s'envole. Nous allons voir que la concurrence darwinienne au sein de l'espèce et cette supposée nécessaire exclusion compétitive vont ici connaître vraiment quelques embarras théoriques. Et de ce point de vue, les poissons volants vont se montrer redoutables.
Les poissons volants ne sont pas des oiseaux, mais ils peuvent planer sur plusieurs centaines de mètres. J'ai lu qu'un exocète avait parcouru 250 mètres rien qu'en volant.
Oui, les exocètes, il y en a surtout deux formes, Exoceotus volitans et Chelopogon euterus, planent largement au-dessus des flots bleus. Mais ils n'ont pas inventé la plume. Par contre, ils ont transformé leur nageoire pectorale en des voiles particulières qui nous obligent à méditer un instant. Voyons voir. Comment a pu apparaître cette adaptation excentrique, puisque, quelque longue que soit la volée dans les airs, quelque acrobatique que soit la distance franchie, quel que soit l'élan lancé ou plané qui le propulse, l'exocète finit toujours et inéluctablement par retomber dans l'océan dont il prétendait pourtant sortir. Et cependant, les poissons volants ont multiplié le nombre de leurs espèces. Il existerait au moins 67 espèces de poissons volants qui toutes privilégient le vol plané au-dessus des vagues plutôt que la nage tranquille dans les flots. On voit qu'ils ont su se diversifier et ça sans barrière. Ils sont probablement affiliés à des poissons anguilles, mais les poissons volants, ils ont su développer leur nageoire pectorale et parfois, il y en a même qui ont ajouté le déploiement de leur nageoire pelvienne. Les rayons osseux qui vont soutenir ainsi une voile double ou quadruple, toutes tendues vers un effort saugrenu, quitter l'océan le plus longtemps possible. Oui, mais ils retombent toujours dans l'eau.
Oui, ce sont des poissons qui volent au-dessus des mers. Ils ont peut-être peur de ce qui se passe dessous la surface.
Ah oui, peut-être que sous la surface, quelque chose pose problème. Mais est-ce que cela suffit pour expliquer la formation d'un organe ? L'intérêt d'un organe ne peut pas en expliquer la genèse. Un nouvel organe commence probablement, sinon comme un handicap, au moins comme une fantaisie. Il y a ce qu'on appelle une exaptation, un luxe de trop qu'il faudra assumer. Il en découle un principe absolu. L'évolution ne favorise ni les gènes prévoyants d'une préadaptation imaginaire, ni ce qui serait meilleur à long terme. Dur hein, de penser sélection naturelle.
Mais alors, pourquoi se décliner ainsi en deux multiples espèces, toutes capables de ne sortir qu'un instant au-dessus de l'océan pour retomber dedans ?
En effet, comme chez les phoques, voilà la grande question. Puisqu'il totalise au moins 67 espèces différentes, comment se fait-il que les poissons volants puissent exister en si grand nombre ? Le plus connu, si on peut dire, de tous nos poissons, puisqu'ils gardent quand même beaucoup de mystères, reste bien sûr les exocètes. Ceux-là vagabondent en Atlantique. En Méditerranée, volent plutôt d'autres types de poissons, comme le Cypselerus, par exemple, qui est un peu plus exotique. Il y en a d'autres encore qui préfèrent, par exemple, les mers du Japon. Il y a encore une autre espèce de poisson volant qui s'amuse dans les Caraïbes. Et puisque celui qu'on appelle le pharaon des mers se disperse aussi bien dans le Pacifique et autour de la Nouvelle-Calédonie. Le plus commun de ces animaux, qui hésite toujours entre la mer et le ciel, est un poisson qui plane au large des côtes américaines. Mais il y en a bien d'autres, avec toujours cet incommensurable effort, et prétentieux effort, d'émerger en planant sur plusieurs centaines de mètres. Le poisson volant paraît donc très très motivé à son affaire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, en une seule espèce, simplement cet effort ?
Mais ils sont peut-être adaptés à un environnement différent.
Ah, on a cherché. La mer est assez peu différente d'un endroit à un autre. Mais quel que soit le facteur marin qui a été analysé, tous ces nomades pélagiques ne semblent influencés par rien. La grande variété de leurs espèces garde une importante part de son agaçant mystère. Rien ne fait qu'une nageoire soit plus adaptée qu'une autre, ou qu'une écaille diverge, soit d'un seul coup plus divergente pour transformer les performances de ces êtres volants. En fait, tout semble indiquer que les uns et les autres n'ont pas acquis de variations décisives qui les rendraient compétitivement meilleurs. Alors comment expliquer cela ? Car ça ne suffit évidemment pas à appréhender ce que sont ces passagers des embruns.
Mais il s'inquiète de ce qui se passe sous lui, le poisson volant. C'est bien cela l'interprétation commune de leur vol. Les poissons volants fuient leur ennemi marin. L'exocète doit déquerpir devant le prédateur qui le pourchasse. Et l'adaptation accomplit la suite, en pourvoyant son corps fuselé d'ailes de planeur.
Alors en effet, c'est toujours la tendance qu'on peut avoir, c'est à expliquer le comportement par son utilité. En effet, les thons et les autres poissons carnivores n'hésitent pas à faire bombance de ce petit voyageur. Sauf que ce ne sont pas les seuls. Et c'est pas le seul poisson prédaté par les thons, ni le plus poursuivi. En fait, dans les immensités marines, il y a combien de petits poissons qui servent de pitance à tous les prédateurs ? Et les sardines, par exemple, n'ont pas cherché à s'envoler. D'ailleurs, toutes les espèces de poissons volants constituent des proies. Mais ce menu fretin n'intéresse pas que des poissons pélagiques. Les oiseaux marins aussi se rassasient de l'acrobate des mers. En fait, des dizaines d'oiseaux marins font festin de ce malheureux évadé de la mer. Le paillanqueu ou phaéton, par exemple, admet dans son repas. Et même la grande frégate le pêche en grosse quantité. En fait, il faut savoir que les oiseaux constituent leur prédateur principal.
Et du coup, cela réduit de beaucoup l'intérêt de la fuite hors de l'eau, si cela aboutit à remplir le bec des volatiles.
Ah oui, tout à fait. Si on saute directement de l'eau dans le bec, c'est pas terrible. Alors planer hors de la mer ne peut donc pas les aider à échapper aux prédateurs. En plus, l'air offre moins de résistance que l'eau, donc ils se dirigent beaucoup moins bien. Mais quelle que soit l'espèce, le poisson volant est confronté à ce terrible dilemme, être poursuivi dans l'eau ou se faire saisir en vol plané. Alors pourquoi a-t-il choisi ? Quelle idée de voler si cette ingénieuse adaptation, qui permet de s'affranchir des prédateurs des flots, ne fournit finalement qu'un piètre bénéfice, celui de trouver le bec des oiseaux ? À moins que l'aile du poisson volant ne soit justement pas destinée à cette évasion. Mais le poisson utiliserait cette aile puisqu'il l'a, puisqu'il en dispose. L'adaptation est ici le résultat provisoire d'un détournement, d'un déplacement de caractère, car l'aile du poisson volant n'est pas apparue pour qu'il vole. C'est bien au contraire parce qu'il a des ailes qu'il peut ainsi planer. D'ailleurs, quand il ne panique pas, il sait sauter et planer au-dessus des océans, juste pour se déplacer longuement ou s'amuser.
Cependant, les poissons volants ont bien modifié leur nageoire en palette de vol. Il y a bien eu changement d'organes, une évolution.
De fait, le paradoxe de l'apparition de ces innovations baroques oblige à composer d'autres idées. Dans les années 40, Richard Benedict Goldschmidt croit déceler avec les réarrangements de chromosomes une solution à l'apparition brusque de caractères. Pour lui, la conversion d'une espèce vers une espèce nouvelle, la spéciation, n'est pas une addition lente et graduelle de modifications minuscules, mais au contraire, un brusque changement complet de toute la physionomie. Goldschmidt affirme, de point ouvrez guillemets, le changement d'une espèce à l'autre n'est pas un changement qui implique plus et plus de modifications atomistiques additives, mais au contraire un changement complet du modèle primitif. Fermez les guillemets. Et voilà donc que surgissait soudain, dans la théorie évolutive, une incongruité absolument non darwiniste. L'évolution découlait de l'apparition de ce qu'on appelle des monstres prometteurs.
Diantre, des monstres prometteurs, c'est une idée valide cela ?
L'assertion fondamentale de cette incroyable théorie reste pourtant très simple. Des animaux porteurs d'une nouveauté extraordinaire apparaîtraient comme les monstres prometteurs d'une évolution novatrice. Ils se forment soudainement par le jeu de la construction organique. La croissance de l'organisme devait donc ainsi montrer des rythmes différents, ce qui provoque ce qu'on appelle des hétérochronies de développement, des irrégularités, un peu comme si la partition de l'évolution connaissait des impatiences et des immobilismes. Cette théorie du monstre prometteur fut évidemment et immédiatement rejeté par le néo-darwinisme. Comment pouvait-on conjecturer la formation brusque d'individus porteurs d'innovation, puisque le tri évolutif devait s'effectuer rigoureusement, caractère après caractère, gène après gène, donc tout ça très graduellement. La sélection naturelle était juste supposée éliminer les mauvais gènes. Le changement était porté par la variation du gène. Mais une variation du gène qu'on appelle l'allèle, qui restait irrévocablement une petite transformation minuscule. Infime promesse que la sélection maintiendrait progressivement tout ce qu'elle ferait pour édifier cet organe. Alors que Richard Goldschmidt, lui, fut absolument ridiculisé, car l'évolution ne pouvait être que sélective et graduelle.
Donc, si les gènes contredisent l'apparition de nouveautés aussi étranges, les monstres prometteurs de Goldschmidt existent-ils ?
Et c'est là l'intérêt de l'histoire, parce que, par une étrange ironie, c'est justement de la génétique, alors que, à laquelle justement les néo-darwiniens Mayer et Dawkins tenaient tellement, que vint la découverte inopinée de l'existence possible de ces monstres prometteurs. L'évolution globale et soudaine était possible. Des transformations brutales pouvaient tout simplement résulter de l'action de gènes de changement, ce que l'on appelle des gènes homéotiques. Ce sont des ensembles de gènes homéotiques, qu'on appelle aussi gènes architectes, qui affectent le développement embryonnaire et plus particulièrement la rapidité de la morphogénèse. En fait, c'est tout l'architecture d'un organisme que l'expression de ces gènes va toucher. Par exemple, les gènes OX ou les gènes cordins sont impliqués dans des réseaux de régulation génétique qui mettent l'accent sur la mutation bien plus que sur la sélection. Pensez donc, le seul gène PAX6 fabrique un œil complet, aussi bien pour une souris que pour une mouche drosophile. Œil pour œil, un gène pour un œil. La transformation d'un caractère peut donc intervenir bien avant qu'il ait un rôle, car l'évolution va détourner l'usage de ce caractère à peine transformé. Le gène ne va plus du tout s'exprimer de la même façon.
Du coup, comment cette digression sur les poissons volants nous informe sur la divergence des différentes espèces ?
Eh bien, les espèces apparaissent à petits pas et brusquement à la fois. Il n'existe pas d'ancêtre vraiment unique, mais des modifications buissonnantes, parfois infimes, parfois inouïes. Elles se succèdent et se contredisent pour ajouter les individus les uns aux autres. Ce qu'on appelle les hétérochronies de développement, c'est-à-dire les cadences de formation hétérogènes du corps, alternent et se relaient, aveugles à leur propre possible. À partir d'un détournement partiel qui engage une complète déformation des corps, l'apparition de nouveaux caractères va dépendre donc clairement de la stabilité des interactions que ça se procure. Il s'agit donc bien d'une écologie. Et ce sont des centaines et des centaines d'individus qui contribuent peu à peu à édifier ce que nous appelons des espèces nouvelles. La spéciation est donc un processus précaire et pluriel qui intègre les gènes d'une espèce à l'autre.
Donc, une différenciation s'est réalisée dans une palette de variations originales et cependant infimes ou brutales. Alors que la reproduction est supposée fonder une certaine identité héréditaire, l'évolution développe ici une incroyable variation. Mais pourquoi ?
Eh bien, le principe du détournement traverse toute l'évolution. Les modifications de caractère s'associent et se contredisent selon les relations intimes que chaque espèce développe ou refuse envers les autres individus. L'apparition d'une espèce témoigne de tentatives plurielles distinctes pour découvrir la stabilité qui va alors fixer un nouveau trait dans son écologie. Mais c'est la reproduction différentielle qui va isoler peu à peu toutes ces expériences diverses. Ainsi vont donc les poissons volants. Faite de refus, de désirs, de revirements et de recherches amoureuses, la formation de chaque espèce nouvelle découle de l'histoire confuse de l'amour des individus. Cela construise la déforme à travers leurs interactions sexuelles. La théorie du monstre prometteur renie la plus grande part du néo-darwinisme et même de la sélection naturelle. À cette occasion, d'ailleurs, il vient à l'esprit des néo-mutationnistes que la sélection n'a rien d'une force constructive. L'élimination sélective n'apporte aucune nouveauté. La mutation, petite ou grandiose, au contraire, est bien la source des innovations et elle s'installe dans les interactions écologiques avec les autres espèces. Elle a juste besoin d'un coup de pouce. Le choix sexuel doit être répété entre individus qui présentent le caractère nouveau. Ça veut dire que ce caractère nouveau est terriblement attractif et que la biodiversité est terriblement amoureuse.
N'est-ce pas, comme tu le dis, c'est le titre de ton livre. Alors, ce qui fait ces multiples espèces, c'est encore leur relation sexuelle.
Oui, leur différence repose sur la difficulté des entrevues amoureuses. Vagabonds des surfaces océaniques, les poissons volants divergent de ne plus se rencontrer. La différenciation spécifique en autant d'espèces s'organise à cause de cet isolement par la distance. Ici, c'est l'étendue marine qui éloigne au point de ne plus s'aimer. Loin des yeux, loin du cœur, en quelque sorte. D'infimes variations peuvent s'introduire alors pour constituer cette diversité finale qui va se disperser dans l'immensité marine. À parcourir l'océan, les poissons volants connaissent donc le dilemme de Marius. Partir ou aimer, l'aventure ou le sentiment, comme le héros de Pagnol.
Et c'est donc aussi cet isolement par la distance parcourue qui a à la fois entraîné les détournements morphologiques des phoques et séparé leurs amours, faisant apparaître de nouvelles espèces.
En effet, cette digression piscicole ne nous éloigne pas de notre question. Pourquoi y a-t-il tant d'espèces de phoques ? Car le dilemme de Marius démontre, s'il le fallait encore, que la sexualité et la reproduction restent la cible primordiale de la spéciation, de la formation de nouvelles espèces. Phoques et otaries se sont dispersés dans l'océan au cours d'une longue histoire évolutive de 20 millions d'années. Et c'est au cours de cet éparpillement que les caractéristiques uniques sont apparues et ont été choisies à travers les préférences sexuelles de chacun d'entre eux, entraînant cette divergence des espèces, tous ces phoques, tous ces otaries et même le grand morse placide, et tous les poissons volants également. Il nous reste donc à comprendre comment cette sexualité a peu à peu résolu certains de leurs problèmes, car nous allons voir que les phoques peuvent s'avérer tout autant monogames que polygynes. Et là encore, c'est bien l'écologie qui va avoir la réponse.
C'était Nightwish, The Escapist, l'évasion de nos phoques, bien sûr. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science en liberté. Et aujourd'hui, nous parlons de phoques et de poissons volants. Si le sexe est le seul élément important de la formation d'espèces nouvelles, autant chez les poissons que les mammifères, il faut évidemment comprendre comment les phoques se reproduisent. Déjà, pour clôturer une blague à deux sous, y a-t-il des phoques homosexuels dans la nature ?
Eh bien, oui, s'il y en a, car la plupart des espèces animales sauvages comportent des individus qui développent des comportements tournés vers le même sexe, aussi bien d'ailleurs chez les femelles que chez les mâles. Bon, l'homosexualité animale fait donc partie de la diversité des sexualités, qui sont toutes naturelles. Caresses, mondes, sodomie, masturbation existent depuis les lézards jusqu'aux buffles, des singes jusqu'aux lions. Et les phoques n'y dérogent pas. Mais ils ne présentent pas plus de comportements homosexuels que les autres espèces. Les femelles peuvent s'associer, se toucher l'une l'autre. On connaît aussi des fréquentations homosexuelles, notamment, par exemple, chez le phoque gris ou encore chez le phoque crabier.
Sans doute, mais on sait aussi que beaucoup de mâles d'otaries peuvent aussi monter, voire violer des juvéniles, aussi bien femelles que mâles d'ailleurs.
Les espèces les plus polygynes de phoques et d'otaries voient un grand mâle s'accaparer des dizaines de femelles dans un harem qu'il défend jalousement. Du coup, ce système sexuel laisse beaucoup de célibataires frustrés qui vont errer en attendant une occasion buissonnière de copuler. Souvent submergés par des flots d'hormones, il arrive alors fréquemment que ces individus lésés pratiquent des montes coercitives. Ils attrapent n'importe quel juvénile disponible plutôt que de se risquer à déclencher le courroux du maître des lieux, en tentant par exemple de séduire une de ses femelles. Donc, évidemment, l'importance du dimorphisme sexuel chez ces animaux, où les mâles peuvent peser 3 fois le poids d'une femelle, entraîne donc que des jeunes, victimes, ne peuvent pas faire preuve d'une grande résistance face à ces mâles brutaux. Alors, ces activités très agressives ressemblent à des viols.
La violence des otaries à fourrure envers les femelles et les jeunes a été de nombreuses fois mentionnée. Alors Thierry, ce sont les machos les plus brutaux parmi les pénipèdes.
En effet, s'il y en a, ils ne se contentent d'ailleurs pas de violer les jeunes et les femelles, ils peuvent aussi se violer entre mâles. Donc c'est quand même relativement grave. Beaucoup d'espèces en fait d'otaries et d'éléphants de mer vont présenter ces mœurs qui apparaissent très violentes. Mais c'est principalement lié à la polygynie des groupes. Chez les otaries de Steller, par exemple, le grand mâle reproducteur chasse sans ménagement tous les prétendants et combat férocement tous ses rivaux pour s'accaparer à lui des dizaines et des dizaines de femelles. L'éléphant de mer austral peut lui aussi surveiller plus de 800 femelles matures. Ils vont donc se montrer assez jaloux, allant jusqu'à fustiger et brutaliser une femelle qui serait trop méditative. Les plus jeunes risquent aussi de se faire écraser par le passage d'un grand mâle en colère. Alors, les autres mâles adultes ne peuvent pas tous réussir à obtenir des partenaires sexuels. Quant aux mâles subadultes, d'autant plus frustrés, ils connaissent des poussées génésiques apparemment incontrôlables. Alors ils harcèlent les femelles immatures et les mâles juvéniles pour les violenter et s'accoupler. C'est chez ces espèces que les cas de violence sexuelle sont d'ailleurs les mieux documentés.
Les frasques sexuelles des otaries peuvent aussi aller bien au-delà du viol de leurs congénères.
En effet, on a observé que des jeunes mâles d'otaries, des kerguelens notamment, couraient après des manchots royaux et les immobilisaient pour les sodomiser.
Eh bien ma foi.
Ils répétaient ce harcèlement parfois pendant plus d'une heure, et à chaque fois l'otarie prend en chasse un manchot qui est isolé, l'attrape et le pénètre. Bien sûr, ce viol est ici tellement brutal que le manchot n'en sort pas toujours indemne. Ces actes de coercition sexuelle sont observés pendant et après la période de reproduction. Et c'est souvent attribué à de fortes poussées hormonales de ces jeunes adultes qu'ils vont connaître à cette époque-là. Alors, comme ces violences se passent surtout chez des espèces qui sont très polygynes, on explique ces comportements coercitifs par une intense frustration sexuelle des jeunes mâles.
Donc finalement, parce que les grands mâles s'accaparent et défendent jalousement un harem, les autres mâles et les jeunes subadultes forcent les femelles et les juvéniles, la violence sexuelle serait liée à leur frustration.
Alors en fait, un peu, mais pas totalement. Les autres mâles guettent toutes les opportunités de s'accoupler. Mais évidemment, quand le dimorphisme sexuel, la différence de taille entre les mâles et les femelles, peut permettre la coercition, quand la femelle n'est pas consentante. Le dimorphisme de taille est très important chez toutes les espèces polygames et chez les otaries à fourrure. La masse corporelle d'un mâle peut même atteindre 3 fois le poids d'une femelle. Ce dimorphisme est attribué à la sélection sexuelle, entre guillemets. Les mâles étant des rivaux pour s'accoupler avec les femelles, ceux de plus grande taille devraient s'imposer parfois à travers des pugilats et des combats entre eux, entraînant le succès des plus forts. Mais ce choix sexuel dépend aussi des femelles. Et même des mâles moins bien pourvus peuvent s'accoupler. Chez ces grosses espèces, l'accouplement a lieu à terre. Et c'est ça qui va favoriser un comportement très territorial des grands mâles qui peuvent mieux surveiller les groupements de femelles. S'ils ne peuvent les séduire dans la mer, les mâles célibataires vont donc les harceler et tenter de s'accoupler avec ces femelles dès leur sortie de l'eau. Cela dit, cette coercition, si elle est très brutale, peut aussi attirer l'attention du grand mâle sur ses rivaux indésirables, et donc ça va entraîner son intervention. Alors les mâles subadultes essaient de se reproduire en usant d'autres moyens. Les jeunes éléphants de mer se faufilent dans le groupe des femelles et se fondent au milieu, cherchant des femelles qui vont accepter une copulation furtive et beaucoup plus discrète. Là, du coup, c'est beaucoup moins violent et presque romantique. Mais tout ça, c'est toujours dû à une seule chose, à la petitesse des espaces disponibles pour ces grands rassemblements d'éléphants de mer.
Oui, tout à fait. En fait, les phoques préfèrent s'accoupler sur terre ou en mer ?
Alors, chez les grosses espèces, l'accouplement se déroule plutôt à terre, comme par exemple chez l'éléphant de mer. Et c'est bien sûr, d'abord parce que les femelles vont mettre bas sur le rivage, que c'est dans la foulée des naissances qu'elles redeviennent aussitôt fertiles, et donc attractives sexuellement. La période de fécondité est aussi assez brève, et ça va accentuer encore plus les rivalités sexuelles chez ces espèces. D'autres phoques vont copuler dans la mer, parfois entre deux eaux sur la plage, et ils se montrent alors, un, beaucoup moins territoriaux, et donc vont développer moins de rivalité, et par conséquent également moins de violence.
Mais est-ce la vie aquatique qui pousse à cette sexualité brutale ?
Non, bien sûr. La socio-écologie des loutres, par exemple, révèle une sexualité bien moins agressive. Bien que les différentes espèces de loutres varient aussi dans leurs mœurs que dans leur habitat ou dans leur régime alimentaire, cela reste tous des prédateurs aquatiques. Mais la vie sociale chez les loutres est beaucoup plus coopérative et apaisée. Les loutres les plus sociales forment même des bandes égalitaires qui vont exposer une vie bien plus libertaire, que libertine ou, bien sûr, qu'une vie coercitive. Ici, l'influence de l'habitat et du régime alimentaire reste cruciale, mais elle ne détermine aucune brutalité.
Il nous faut donc décrire les comportements reproducteurs des pinnipèdes, car chaque espèce diffère dans ses manières de vivre sa sexualité.
Oui, mais on peut dépeindre leur comportement en séparant les systèmes sexuels en plusieurs groupes, en plusieurs catégories, selon le nombre de partenaires pendant la saison de reproduction. Il existe ainsi des espèces quasiment monogames, comme le phoque à capuchon, des espèces particulièrement polygames, polygynes, comme chez les éléphants de mer. Là, la copulation reste marine chez les espèces monogames ou polygynes, alors que la copulation est terrestre et elle est associée aux espèces les plus polygynes.
Mais la plupart des phoques et otaries se regroupent dans de grands rassemblements sur les plages ou sur les côtes rocheuses.
Les pinnipèdes manifestent ces comportements sociaux surtout pendant la période de reproduction. En fait, les rythmes hormonaux paraissent beaucoup fluctuer selon la saison. Aussi, la reproduction est-elle beaucoup plus saisonnière que chez d'autres mammifères. Si l'accouplement a souvent lieu dans l'eau, les copulations se déroulent quand même à proximité des côtes et du rivage, car les femelles ont besoin d'aller à terre pour la naissance, mais aussi de retourner en mer pour manger. Les nouveau-nés ne peuvent pas respirer dans l'eau, et ils ne savent pas nager dans leurs toutes premières heures. Du coup, les femelles gestantes se regroupent à terre avant les parturitions et réduisent leur séjour en mer pour s'alimenter sur la côte. Mais bien qu'ils se rassemblent, le plus souvent hors d'atteinte des prédateurs et ne s'alimentent pas beaucoup à cette époque, ils dévoilent une grande variété de rassemblements reproducteurs et la disponibilité des ressources ne peut pas expliquer cela.
Et nous allons voir que ces rassemblements sexuels sont liés à l'écologie des diverses espèces.
En effet, les plus grands groupes concernent les otaries et les éléphants de mer. Ainsi, les éléphants de mer du Nord, les éléphants de mer australes, les espèces d'otaries à fourrure ou de lions de mer de Californie vont contrôler des harems qui peuvent atteindre 100 femelles pour un seul mâle. Ce sont aussi les pinnipèdes les plus dimorphiques. Les mâles sont beaucoup plus gros. Les animaux s'emparent d'abord d'une zone et se territorialisent sur les plages où les femelles vont se rassembler et même se concentrer pour leur mise bas. Là, les grands mâles chassent et font fuir le plus possible les autres mâles. Les combats peuvent être assez violents puisque l'espace est réduit en dépit de sa taille et ces combats violents vont s'assurer de l'exclusivité d'une centaine de femelles. Les mâles rivaux sont donc expulsés loin de la plage et se territorialisent à leur tour ailleurs. Les autres, les plus jeunes, vont rôder en mer en espérant profiter d'une distraction du grand mâle pour tenter d'approcher les femelles.
Finalement, les otaries et les éléphants de mer forment donc des groupes polygynes avec un grand mâle pour des dizaines de femelles, mais d'autres sont plus modérés.
Et oui, au contraire, par exemple, les phoques crabiers et les phoques marbrés, dont les sexes sont à peu près de taille similaire, ou encore les phoques à capuchon, ils sont beaucoup plus strictement monogynes. Les phoques crabiers vivent en Antarctique et le mâle défend le couple et leurs jeunes sur une toute petite surface de glace. Le phoque marbré est un tout petit phoque avec un poids de 18 kg seulement, mais lui il est répandu sur la banquise dans tout l'Arctique. Les phoques à capuchon présentent un léger dimorphisme sexuel, le mâle pèse 200 kg avec une petite poche sur sa tête, quand la femelle en pèse simplement 160. En fait, le mâle du phoque à capuchon, comme son nom l'indique, porte une poche sur sa tête qui se gonfle en un gros ballon rouge et ça lui sert à séduire les femelles. Chez ces espèces plus monogames, l'accouplement se déroule en mer et les animaux batifolent à deux dans les vagues. En revanche, il n'existe pas non plus de grands rassemblements de femelles, celles-ci occupant plutôt des îlots très petits, très isolés, ou encore des blocs morcelés de la banquise disloquée pour accomplir leur mise bas. Du coup, mâles et femelles se séduisent en mer et voguent vers leur destination, atterrissant sur des zones non occupées par d'autres. Il existe parfois une faible compétition pour demeurer sur un site, mais les animaux restent beaucoup plus dispersés. La parade nuptiale est également beaucoup plus complexe et la violence n'est quasiment pas présente.
Là, on a affaire à des espèces plus douces et plus strictement monogames alors.
Ce sont des espèces plus souvent monogynes et le groupe de reproduction est en général composé d'une seule femelle monogame, c'est-à-dire une femelle avec un mâle. Les femelles élèvent ensuite leurs petits dans leurs abris où elles l'allaitent pendant 2 mois avant de quitter dès que le petit sait se débrouiller tout seul.
Il existe d'autres phoques monogames ?
Les espèces les moins grégaires, comme par exemple les phoques du Groenland, les phoques gris ou les phoques vaumarins, vont réaliser une structure beaucoup plus polygyne, polygame en quelque sorte, mais elle est beaucoup moins stricte. Elle peut comprendre une femelle avec un mâle jusqu'à 10 à 20 femelles avec un mâle. La copulation a lieu à terre, mais le vaumarin, par exemple, effectue un accouplement aquatique. Les phoques du Groenland forment des petits groupes d'une dizaine d'individus qui se maintiennent ensemble sur les fissures de la banquise pour pouvoir remonter et respirer. Ils se reproduisent sur la banquise disloquée, utilisant des grandes plaques de glace. Les phoques gris vont plutôt occuper des petites côtes rocheuses. Ils se groupent en un groupement d'une dizaine de femelles, où chacun utilise un petit espace privé. Là, le mâle s'occupe avec le plus possible de femelles, défendant un tout petit harem de 2 à 5 femelles, 6, 10. Le veau marin lui va occuper des petites plages, des côtes sableuses de la Manche et de la mer du Nord. Comme les animaux s'accouplent dans l'eau, chaque mâle ne réussit à s'accoupler qu'avec 2 à 10 femelles seulement. La copulation est aussi marine chez d'autres espèces, comme par exemple chez le phoque de Weddell. Aussi, les sites de reproduction sur la banquise disloquée vont regrouper seulement quelques femelles ensemble pour la mise bas.
Ces différences dans le système sexuel entre les grands rassemblements des otaries à fourrure et des éléphants de mer contre les petits groupes ou même les couples monogames s'expliquent comment ?
Eh bien, en fait, la structure sociale va dépendre de la dispersion ou du rassemblement des femelles reproductrices. Mais évidemment, le nombre de femelles dans ces rassemblements dépend aussi strictement de la disposition des surfaces disponibles. Les banquises stables, ou les roqueries par exemple, les assembleurs rocheux, forment d'importantes surfaces qui sont accessibles pour les éléphants de mer, qui peuvent alors se rassembler en très grands groupements. Mais il n'y a que quelques grands endroits disponibles. Au contraire, la glace morcelée, les banquises fracturées ou les îles subtropicales, qui elles sont très dispersées, ne peuvent accueillir que des petits couples ou des très petites communautés. Elles vont donc entraîner des solutions de reproduction beaucoup plus monogames. Enfin, les places de reproduction intermédiaires, sur la banquise instable, sur les petites côtes rocheuses ou sur des plages plus restreintes, permettent la constitution de petits groupes de femelles. Lorsque ces petits groupes se constituent, cela autorise la formation polygyne chez des espèces comme par exemple le phoque de Weddell ou encore le phoque gris, d'un mâle jusqu'à 2 à 6 femelles.
C'est donc d'abord l'instabilité des habitats qui entraîne le système sexuel des pinnipèdes et donc de leur violence.
Tout à fait. Sur ces zones de mise bas plus abritées, abritées des prédateurs notamment, les phoques forment donc des couples ou des trios. Alors que sur la banquise stable ou sur les grandes côtes rocheuses, l'importance du rassemblement va les protéger collectivement à un seul endroit. Mais le coût de cette stabilité est aussi lié à la constitution de grands harems et d'une stratégie polygyne très dictatoriale. Chez les otaries à fourrure, les lions de mer ou les éléphants de mer par exemple, ce sont les plus violents des mâles qu'on retrouve chez les animaux. Et ces rassemblements encouragent la compétition entre les mâles. Donc, on trouve des situations intermédiaires sur la banquise instable ou sur les plages moins exposées.
Mais les grands éléphants de mer et les otaries ont fondé un système sexuel assez dictatorial, cependant.
En effet, alors que d'autres phoques se montrent beaucoup plus tolérants, Les grands rassemblements des otaries à fourrure et des éléphants de mer inscrivent le conflit des sexes dans leur vie sociale. Le grand mâle n'a assuré sa paternité qu'en surveillant jalousement les femelles et en s'assurant d'évincer les autres, il en a énormément. En ayant aggravé le dimorphisme sexuel, les mâles peuvent donc désormais s'accaparer des harems en se battant entre eux. Mais ce sont aussi les femelles, rassemblées contre le risque de prédation, qui ont permis ça. Le conflit n'est donc pas résolu dans ces milieux instables. Mais l'évolution n'est pas finie non plus. Ailleurs, d'autres phoques vont présenter une vie sexuelle beaucoup plus apaisée. Mais là encore, la présence des prédateurs et l'étroitesse des surfaces disponibles pour les groupes de femelles vont induire des comportements.
La vie sexuelle des phoques dépend donc de la stabilité de la glace de la banquise.
Le degré de stabilité et de durabilité de leur habitat de reproduction va induire en effet des rassemblements de femelles, et donc l'attitude des mâles. Sur un terrain vaste et solide, comme sur les côtes de Patagonie ou les côtes californiennes, les otaries peuvent se regrouper pour la mise bas, et chaque mâle peut alors défendre un immense harem. Au contraire, les petits îlots isolés ou les petits morceaux de glace de la banquise fragmentée ne peuvent accueillir qu'une ou deux femelles à la fois, entraînant donc un éparpillement des femelles, et donc les mâles deviennent monogames ou presque, par obligation. La banquise disloquée, ou les petites côtes rocheuses plus difficiles d'accès, permettent des stratégies d'intermédiaire. On voit combien la socio-écologie des pinnipèdes est influencée par la stabilité des milieux. Du coup, la fonte de la banquise, due au dérèglement climatique, pourrait avoir de grosses répercussions sur la reproduction des phoques.
Effectivement, si avec le réchauffement de l'atmosphère, la glace recule, cela affectera les possibilités de mise bas. Le fait que la copulation ait lieu à terre joue aussi un rôle ?
Oui, l'accouplement terrestre permet de surveiller les femelles, qui peuvent moins se soustraire au grand mâle, tandis que la copulation aquatique, elle s'avère évidemment beaucoup plus dispersée. Les femelles peuvent facilement s'échapper pendant qu'un mâle est obligé, par exemple, ou occupé à chercher l'aventure ailleurs. Le nombre d'espèces de pinnipèdes est donc à la fois lié à l'éloignement par la distance au cours de l'histoire évolutive, mais aussi à la dispersion des sites de reproduction à terre. Enfin, les phoques se sont trouvés isolés pendant leur évolution, et certains d'entre eux vivent même presque au milieu des terres continentales.
Ce sont encore des phoques bien mystérieux.
Oui, il s'agit d'ailleurs des espèces les plus petites, puisque le phoque de la Caspienne et le phoque du lac Baïkal montrent des poids de 50 à 80 kg. Ils diffèrent tous les deux de leurs cousins et de leurs ancêtres marins en possédant une meilleure flottabilité dans l'eau douce. Le phoque du Baïkal est le seul vrai phoque d'eau douce, mais il existe aussi des petites populations de phoques marbrés ou de phoques veaux marins dans le lac des Loups, par exemple, au nord du Québec.
Ces phoques se sont trouvés enfermés dans les terres, finalement, au cours de leur histoire. Le phoque du Baïkal est même en plein milieu de l'Asie.
Oui, il ne peut pas être plus isolé. Mais à l'époque de leur arrivée, il semble que le Baïkal ait été relié par la mer avec des plans d'eau de Sibérie. Ensuite, des mouvements tectoniques ont peu à peu fait remonter les terres et ils ont conduit à l'isolement total de ces espèces. Le phoque du Baïkal se reproduit dans des parties nord du lac, mais il semble surtout que peu à peu les phoques ont migré dans les zones sud, plus abritées, surtout pour échapper aux chasseurs. La chasse a conduit l'espèce au bord de l'extinction, mais le phoque du Baïkal est maintenant protégé. Toutefois, les petites populations relictuelles ne se reconstituent évidemment pas facilement. L'effectif est très faible. Chez le phoque de la Caspienne, lui aussi, il migre du nord vers le sud. Dans cette mer Caspienne, des petites criques rocheuses où il va s'abriter, il va montrer des mœurs très monogames. Et c'est sans doute aussi cette discrétion qui lui permet d'éviter les perturbations de la chasse. Les phoques ont donc bâti peu à peu leur niche spécifique, comme le soutient la théorie de la construction des niches, qui montre que chaque organisme s'engage par rapport aux autres dans une perspective d'écologie évolutive. En fait, même les habitats terrestres jouent sur la socio-écologie des 13 espèces de loutres du monde, par exemple. Le milieu qu'elles exploitent, leurs tactiques de capture, leur alimentation, influençant leur vie sociale. En se partageant des ressources aussi diversifiées que les crabes, les mollusques ou les poissons, l'outre cendré, l'outre de mer et l'outre géante appuient leur vie sociale sur une écologie qui ouvre sans cesse vers l'évolution de la nature. Certes, des questions se posent encore sur le regroupement des mâles de l'outre de mer, par exemple, qui vont s'écarter des femelles. Mais cette fois-ci, sans sombrer dans une guerre des sexes inexpugnable, les loutres savent approcher d'une vie sexuelle plus apaisée dans des communautés sans chef et sans bataille.
Ascolterò e mi alzerò per guidare a gran ascolterò,
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 risponderò,
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 colpo su colpo ai vostri brogli, un'altra volta no, non mi imbroglierete,
di parole, 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 ci avete imbottiti, flesciati, storditi, fiumi di parole, mare di promesse, da quelle poltrone sono sempre le stesse,
minchiate che vomitate.
Cela valait bien qu'on écoute Los Fastidios qui interprétait Fiumi di Parole.
Aujourd'hui, seules quelques espèces de pinnipèdes échappent à une dramatique restriction de leurs effectifs. Toutes les autres espèces ont tellement vu diminuer le nombre de leurs reproducteurs qu'elles ne pourront pas se maintenir très longtemps. La distance est pourtant ce qui a éloigné les espèces de poissons volants entre elles, comme les phoques qui ont dû se résoudre à vivre avec le même dilemme de Marius. Ainsi se sont fabriquées ces espèces qui voguent sans frontières. Et cependant, les grands rassemblements reproducteurs nous révèlent encore l'importance de l'écologie dans la vie sociale des animaux. Ici, la banquise disloquée empêche que trop de femelles accostent, tandis que les grandes côtes rocheuses autorisent des regroupements et l'élevage des jeunes. C'est donc la stabilité de l'habitat qui influence la sexualité des pinnipèdes. Pas de choix meilleur ou moins bon, mais des stratégies flexibles qui dépendent des interactions écologiques avec leur habitat. Pas d'élimination sélective contre les moins adaptés, mais des réponses plurielles au milieu de toutes les interactions de la nature. Car même les choix sexuels ne s'imposent pas naturellement, et chaque espèce se débrouille dans les contradictions du conflit sexuel. Toutefois, en dépit de leur irascibilité, de la brutalité de leurs rapports sexuels apparents, même les otaries ou les éléphants de mer, s'ils n'ont pas encore résolu tous leurs conflits des sexes, restent loin d'atteindre la violence de nos sociétés patriarcales. Leur communauté constitue comme un miroir de nos comportements agressifs les plus absurdes, sans jamais égaler la cruauté sociale cependant. La socio-écologie des loutres vient encore rappeler que d'autres animaux aquatiques peuvent construire leur vie sociale sans perturber leur vie sexuelle de combats inutiles. Car c'est bien nos choix qui nous définissent, et un monde libertaire ne se déterminera qu'au bout de notre histoire apaisée.
Nous voilà donc au terme de ce voyage. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Et nous allons conclure avec « Pas de justice » de Briada Flores Mangon.
Où elle avance.